Mon message pour les assos, c'est qu'elles continuent à fond leur projet.
Donnez tout. C'est un beau projet.
C'est la meilleure soirée de l'année. J'ai hâte de voir des gens donner et être heureux.
C'est pas qu'une levée de fonds, c'est vraiment un moment de solidarité, d'entraide et de bonheur.
Réveillez en chacun de vous l'envie d'être bâtisseur. Engagez-vous auprès de ceux qui s'impliquent.
C'est la générosité de personnes qui se disent « moi, je veux aussi agir ».
Je crois que ce soir à l'Olympia, on va tous ressortir avec le cœur gonflé de joie et heureux et avec envie de s'engager chacun à sa manière.
Et hâte de vivre ça.
Merci à l'Union du bien commun.
Un moment un peu exceptionnel, on peut le dire, qui permet à tous nos rêves de pouvoir devenir vrais.
Ce soir, je vous invite à construire un avenir dans lequel chaque jeune porteur de handicap trouve enfin sa place. Ensemble, transformons l'exclusion en excellence collective.
En attendant que les intervenants de la table ronde 3, la dernière table ronde qui clôt le triptyque et qui est importante du coup pour aborder ce pourquoi on est là, n'est-ce pas, c'est-à-dire les nuits du bien commun, j'en profite pour vous dire qu'il y a plein d'affiches là, juste derrière, c'est la table qui est sous les bannières, c'est les affiches de la mobilisation contre la nuit du bien commun du 4 décembre, donc l'édition nationale qui va se passer à Paris dans un mois, aux Folies Bergères de Vincent Bolloré. Ce serait super si plein de gens prenaient plein d'affiches pour coller dans leurs quartiers respectifs pour, vous voyez quoi, faire des collages. Voilà, je me tais.
Merci beaucoup. Troisième volet de notre triptyque sur Pierre-Édouard Sterrin. Elsa Sabado est toujours parmi nous. Elsa, la nuit du bien commun, qu'est-ce que c'est? Raconte-nous un peu.
C'est la suite de... Une fois que j'avais fait cette première enquête il y a 5 ans là, sur laisser les servir, c'est à ce moment-là que j'ai découvert donc l'existence de la nuit du bien commun. Et après cette première enquête, j'en ai fait une seconde sur une autre association, toujours financée par la région, qui s'appelle Oasis Le Rocher, et qui avait aussi eu défendre la nuit du bien commun. Donc je me suis dit, je vais aller voir ce que c'est la nuit du bien commun. Et donc me voilà avec toujours notre camarade Simon Mauvieux en 2021, en décembre, dans la nuit, dans le froid et la fatigue, on se pointe un soir à l'Olympia où il y a cette fameuse nuit du bien commun. Et en gros, alors la première chose que je voulais dire, c'est donc j'y étais une fois en 2021 avec Simon et une autre fois en 2024 avec Rosen et mes deux autres camarades. Et il y a un truc qui m'a beaucoup marqué entre les deux, c'est que je pense que la file d'attente s'est multipliée au moins par 10. C'est-à-dire que on rentrait par bataillon de 200 personnes dans la salle. On a attendu au moins 3 quarts d'heure avant de rentrer, alors que la première fois, on était rentré vraiment sans problème. Quand vous rentrez dans le couloir rouge de l'Olympia, il y a des petits jeunes qui vous proposent des fascicules en papier glacé. Et ces petits jeunes, ce sont les enfants de Saint-Jean-de-Passy. Saint-Jean-de-Passy, c'est une grande institution catholique et il se trouve que c'est aussi à Saint-Jean-de-Passy que se réunit le comité qui sélectionne les associations qui passent sur la scène pendant la nuit du bien commun. Vous entrez donc escorté par ces petits jeunes, vous vous asseyez et là commence... le spectacle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une nuit du bien commun? Ce sont une série d'associations qui ont été triées sur le volet par ce comité directeur. En 2021, il y avait par exemple Bernard de la Villardière et Louis de Bourbon qui en faisaient partie. Et chacun a 3 minutes, bien moins que nous, pour pitcher son association, le projet de son association et... demande au parterre devant lequel il est, à son auditoire, de donner de l'argent, de faire des promesses de dons à l'aide d'un panneau avec marqué 5000, 500, 100, etc. Et donc la star de cette nuit du bien commun, c'est évidemment le commissaire-priseur qui est complètement surexcité, qui fait monter les enchères. Et du coup, voilà, on a s'enchaîne les pitchs de directeurs d'associations. Et c'est assez marrant parce que ces directeurs d'associations, eh bien, ils s'expriment tous comme des évangélistes américains. C'est-à-dire qu'ils commencent tous par incarner le propos, par dire voilà, moi, ce qui m'est arrivé, c'est ça. Et puis, une petite histoire. Et pour extrêmement tirer l'arme à chaque fois, évidemment, pour à la fin. Demander à l'auditoire de donner de l'argent. Alors, qui sont les auditeurs qui peuvent donner 5000 euros à une association ? Ici, je doute qu'il y en ait beaucoup. Dans l'auditoire de la nuit du bien commun, ils sont pléthores, figurez-vous, parce que, en gros, c'est toute la vieille bourgeoisie catholique qui vient assister à ça. Ça dure 4 heures, c'est hyper long, encore plus long qu'ici. Et surtout, il y a des petites choses auxquelles qui ont éveillé mon attention les dernières années, enfin l'année dernière. En gros, par exemple, c'était le moment où Esterin s'était désinvesti de ses nuits du bien commun, et donc il fallait donner une caution de gauche pour montrer qu'ils n'étaient pas si d'extrême droite que ça. Et donc là, ils ont fait passer un message oral de Marine Baousson, qui est une militante lesbienne, grosse, humoriste sur France Inter, qui voulait soutenir une des petites assos qui était là. Et alors là, quand elle a dit France Inter, il y a eu un blanc total dans la salle. Et on a senti que ça ne passait pas du tout, que ça se crispait beaucoup. Ça, c'était une des entr'actes. Et le deuxième point d'attention qu'on a eu pendant cette soirée, c'était le spectacle acrobatique de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Parce que la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui est normalement financée par nos impôts, eh bien, elle est désormais dirigée par un monsieur qui s'appelle Arnaud de Cacré de Valmeignier. Et Arnaud de Cacré de Valmeignier, c'est le tonton d'un autre Cacré de Valmeignier, dont certainement certains vous le connaissez ici, qui se charge de garder l'île, qui est membre du GUD, et il se charge de la sécurité de l'île de Bolloré en Bretagne. Et vous pouvez regarder les Cacré de Valmeignier. Bon, c'est une lignée qui visiblement, voilà, familialement, à certaines accointances politiques. Donc voilà, c'est les deux choses sur lesquelles nous, on a eu des points d'attention l'année dernière. Ensuite, il faut faire une petite typologie des associations qui sont récompensées. Donc en 2021, je disais que les associations, les différentes catégories, c'était les terres perdues à reconquérir du catholicisme, à savoir les villages de campagne, les vieilles pierres, les cantiques et bien sûr le corps des femmes. Voilà, et donc voilà, donc cette nuit du bien commun, elle va à nouveau avoir lieu le 4 décembre prochain. Et je crois que ici se trame des des choses pour faire en sorte, en tout cas, qu'elle ne puisse pas se dérouler comme si c'était tout à fait normal. Et je ne sais pas du coup à qui je peux laisser la parole pour.
On va se donner de la force. Merci en tout cas pour cette espèce d'état des lieux sur ce que c'est que la nuit du bien commun. Merci Elsa Sabado. Léa, la nuit du bien commun, tu la connais bien. Donc alors on l'a dit, le 4 décembre, ce sera dans une salle de Vincent Bolloré, ce sera aux Folies Bergères. Quel est ton regard sur la façon dont la nuit du bien commun est présentée et ce qu'on y trouve en fait quand on creuse un peu?
Alors, je vais peut-être revenir un peu sur des choses que j'ai dit tout à l'heure dans la première table ronde. Déjà, peut-être un élément de contexte, c'est que la nuit du bien commun, donc elle a lieu le 4 décembre à Paris la semaine prochaine, mais en fait, elle a lieu toute l'année dans toutes les villes de France. Elle a lieu, par exemple, là, dans 10 jours à Rennes. Je crois que c'est dans pas longtemps à Dijon aussi, si c'est pas ce week-end. Là, il y a 2 semaines, c'était à Angers. Enfin, bref, voilà, c'est toute l'année dans toutes les villes de France. Et cette année, pour la première fois, c'est parce que, comme je ne sais plus, quelqu'un le disait tout à l'heure, ça existe depuis 2017. Cette année, partout où elles ont lieu, il y a des mobilisations en fait en face. Maintenant qu'on sait ce que c'est, maintenant qu'on sait ce que ça finance, maintenant qu'on sait le projet que c'est derrière, ils peuvent bien essayer de gommer ce qu'ils veulent bien gommer. C'est l'ADN du projet même qu'on rejette contre lequel on lutte. Pour répondre à ta question un petit peu sur l'affichage entre guillemets qu'ils font un petit peu, et s'ils essaient de se décorréler de cet aspect politique et tout ça, bah, je vais revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a plusieurs aspects. Déjà, dans la sélection des associations, ils essaient de dire que leur sélection elle est transparente. En réalité, c'est toujours les mêmes assos qu'on voit dans toutes les villes. C'est des assos qui sont créés, co-créés, gérés par des gens. Généralement, c'est la femme de, ou le mari de, ou le fils de quelqu'un d'autre qui est bien engagé en politique. Ou alors, quand on va voir ses tweets en 2013, on voit bien qu'à la Manif pour tous, il n'était pas le dernier. Et donc, il y a ça déjà. Donc, dans la sélection aussi, dans les éléments de sélection, par exemple, une association qui ferait une présentation avec de l'écriture inclusive, c'est non. C'est dans les statuts, c'est non. Écriture inclusive, pas possible. Ils ont des sujets de prédilection de ce sur quoi ils sélectionnent. Donc la question du handicap, la question du patrimoine, la question de la culture, l'éducation, j'en oublie, les femmes, enfin, la natalité, quoi. Voilà, la vie. Évidemment. Donc c'est souvent c'est sur ces sujets-là. On a rarement, mais quelquefois, vu des sujets un petit peu autour de l'écologie, mais toujours instrumentalisés un peu de la façon dont tu as pu le parler tout à l'heure, en même temps réemploi qui va avec réinsertion, et réinsertion qui va avec tout ce que vous imaginez de ce que, en fait, exactement ce que tu as pu décrire tout à l'heure, quoi. Donc voilà. Donc évidemment que c'est dans l'ADN du projet, c'est dans l'ADN du projet même dans les personnes qui animent cet espace-là. Ils ont évidemment sorti ce terrain, parce que ce terrain, ça devenait compliqué à justifier, mais en fait, les gens qui animent toujours la Nuit du Bien Commun, donc je parlais tout à l'heure de Lionel Devic, qui est le fondateur de la Fondation pour l'École, donc lui qui promeut à l'échelle nationale, c'est un grand personnage à l'échelle nationale, des gens qui promeuvent l'école privée hors contrat, catholique, intégriste, pour faire toute la sauce qui va avec. Il est également avocat. Je pourrais faire le déroulé de tous les personnages qui animent la Nuit du Bien Commun, mais en réalité, en fait, ils sont tous, de près ou de loin, des militants, pas simplement de loin, quoi. Il y a aussi Obol, qui est important un peu à identifier là-dedans, qui est la société de production de l'événement de la Nuit du Bien Commun. Obol est financé, tout pareil, par cette même galaxie Bien Commun. Obol finance aussi des événements qui s'appellent... Bon, j'ai oublié le nom, mais c'est des événements exactement comme la Nuit du Bien Commun, mais là, on assume complètement que l'objectif, c'est évangéliser, quoi. Donc, c'est les deux principaux événements qui produisent au bol cette société-là. Dans cette galaxie-là, il y a aussi la Maison du Bien Commun. On n'en parle pas beaucoup, mais pourtant, elle est super intéressante. Alors, elle s'est renommée. Maintenant, elle s'appelle la Maison du Rock, du nom de la rue, rue du Rock, elle est là-bas. C'est dans le quartier Montparnasse, je crois. Enfin, je connais pas bien Paris, mais je crois que c'est dans cette zone-là. C'est une maison qui vise à faire du coworking, des événements, des choses comme ça. Et là, on retrouve évidemment les assos qu'on voit à chaque Nuit du Bien Commun. On les retrouve au quotidien, en fait, dans cette maison-là. Ils ont des bureaux, etc. Le coworking, en fait, on retrouve principalement les assos qu'on retrouve, du coup, dans la Nuit du Bien Commun, ou en tout cas financés par le Fonds du Bien Commun. C'est aussi un lieu qui accueille des événements, des conférences. Alors vraiment, je vous invite à aller voir leur site et les conférences, parce que vraiment, alors là, c'est compliqué de se cacher d'un projet politique, que ça soit dans les intervenants ou dans les conférences. Enfin, c'est là, je comprends pas trop leur logique de vouloir d'un côté faire ça et de l'autre côté assumer ce type de conférence. C'est un petit peu compliqué. Donc la Maison du Bien Commun, au bol, la Nuit du Bien Commun, le Fonds du Bien Commun, évidemment, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais en tout cas, enfin, c'est une galaxie, un écosystème qui est tellement imbriqué dans l'extrême droite, en fait, historique française, qu'en réalité, ils pourront faire ce qu'ils veulent. En fait, ils sont des militants d'extrême droite, donc ça va être compliqué d'essayer de se dédouaner de quelque chose. Maintenant, ils vont essayer, et c'est ce qu'ils font actuellement. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les mobilisations payent, parce que du coup, il y a pas mal de mécènes qui se sont désengagés, il y a des assos qui se sont désengagés, il y a des lieux qui veulent plus les accueillir, et aussi, eux, ils assument. Ils le font pas publiquement, mais en fait, j'ai l'impression que LinkedIn, pour eux, c'est pas public, mais c'est public, LinkedIn. Et sur LinkedIn, ils racontent absolument toute leur vie, et notamment ils racontent comment ils ont vécu cette grave crise des mobilisations contre la Nuit du Bien Commun, et vraiment c'est hilarant. Je vous conseille d'aller lire ça, parce que c'est super. Et donc ils ont fait appel à une personne extérieure pour résoudre cette crise interne, pour réfléchir, réorganiser, etc. J'imagine que c'est de ça qu'est sorti le fait de faire le ménage dans les noms, les personnes qui animent cette Nuit du Bien Commun. Et donc du coup ils arrivent avec une nouvelle stratégie. Au final, la stratégie qu'ils ont là, ils ont choisi finalement de garder la même. En enlevant quelques personnages, de toute façon ils vont pas pouvoir enlever tout le monde parce que c'est compliqué. Là je tourne un peu en boucle, mais enfin vous avez compris un peu l'idée quoi. C'est le serpent qui se mord la queue, mais vraiment les posts LinkedIn des dirigeants de la Nuit du Bien Commun, ils valent le coup. Enfin, si vous vous demandez est-ce que ça vaut le coup de lutter contre ça, vraiment au moins ça fait plaisir. Et on les voit vaciller là-dessus, ils arrêtent pas de répéter que on les fera pas arrêter, etc. Qu'ils continueront jusqu'au bout, mais en fait ils sont quand même super frileux. Là sur la Nuit du Bien Commun qui arrive à Rennes dans une dizaine de jours, ils se sont même pas mouillés, ils ont dit on va la faire en streaming. C'est Rennes, on a un petit peu peur. On ne sait pas trop. Donc, voilà, c'est quand même intéressant, cette lutte paye. Alors, ah oui, c'est peut-être un dernier élément. Pourquoi au début, la mobilisation contre la Nuit du Bien Commun? Parce qu'en fait, elle existe depuis 2017 et c'est vrai qu'on aurait pu se mobiliser avant. Alors, il y a tout le travail d'enquête qui a fait qu'on est arrivé là à un moment, etc. et qu'on ne l'avait pas forcément avant. Je pense que le fait que dans les assos lauréates de la Nuit du Bien Commun, il y ait des assos comme SOS Calvaire, Canto ou des choses comme ça, où là, c'est vraiment des assos qui sont animés, créés par des militants identitaires de rue type Bastion Social, Albarium, etc. Donc en fait, ça a éveillé le soupçon de pas mal de militants. Et ensuite, il y a un peu cette question qui s'est posée de se dire, ce terrain était un peu invisible au début. On voyait bien tous les axes qui déployaient un peu partout et tous les trucs un peu offensifs qui mettaient en place partout sur le territoire. La Nuit du Bien Commun, ça se passe dans toutes les villes, ça se passe partout. Et du coup, l'enquête, elle permet, dans la foulée directe, merci. De pouvoir déployer après cette enquête et pouvoir aussi avoir une sorte d'unité dans cette lutte. Et on voit que cette unité, elle a payé parce qu'on les voit vaciller et c'est quand même super chouette.
Bravo, merci Léa. Moi, je suis très interpellée par ce gonflement du nombre de spectateurs que tu décrivais, Elsa. On a aussi une période où les médias connaissent un virage assez radical qui est très inquiétant, notamment dans les médias bourgeois mainstream où il y a une espèce de banalisation de l'extrême droite, et puis à la fois cette vitalité des luttes et qui ont un véritable effet. Alors avec nous ce soir il y a, on la présente plus, je ne sais pas, Salomé Kadhafi qui est la secrétaire générale adjointe de ce qu'on dit la CGT Spectacle, est-ce que je dois dire Symptac, voilà, bon, la CGT Spectacle en gros, et Karine qui est secrétaire générale adjointe du SNAM, syndicat CGT des musiciens en gros. Voilà. Alors, comment est-ce que le système Sterrain essaye de dégommer la culture? Comment ça se passe? Où est-ce que ça se passe? Et comment on fait pour se bagarrer?
Ouais, bah, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises, en fait, c'est une véritable bataille culturelle qu'ils mènent. Et en fait, donc nous, la fédération du spectacle, c'est vraiment tous les, il y a tous les domaines du spectacle, donc spectacle vivant, spectacle enregistré, les arts plastiques, l'action culturelle et les journalistes. Depuis peu, en fait, on est confronté très directement dans chacun de nos secteurs à cette personne qui s'immisce petit à petit et qui en fait est très s'immisce, c'est ça, dans tous nos champs professionnels. Et en fait, on parle beaucoup de concentration financière et on sait qu'elle s'applique aux médias, mais elle est à l'œuvre également en fait dans tout ce qui est salle de spectacle. Donc il y a des grands groupes comme Lagardère ou comme Fimalac qui ont une multiplicité de salles partout en France. Il y a Bolloré qui est à l'Olympia, on l'a dit. Et dans ces salles sont organisées donc les Nuits du Bien Commun, comme ça a été dit. Et il y en a régulièrement. Et moi, je voulais revenir un petit peu sur pourquoi on est mobilisé dans la lutte contre l'extrême droite, mais là, contre ces Nuits du Bien Commun. Donc il y a d'une part cette histoire de salles de spectacle qui sont investies et qui donc sont utilisées pour faire la promotion de ces idées réactionnaires. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que les personnes qui sont embauchées, par exemple, pour travailler sur ces nuits du bien commun ne sont pas forcément au courant du projet sur lequel elles sont embauchées. Et on sait qu'actuellement, le secteur de la culture c'est subi des coupes budgétaires drastiques et qui sont catastrophiques, et que peut-être un peu plus... En fait, peut-être les personnes cherchent un peu moins à savoir sur quoi elles bossent, parce qu'elles ont besoin absolument de faire leurs heures. Et donc, on se dit qu'il y a une part hyper importante, une partie importante de ce qu'on peut faire, c'est en tout cas de ne pas cesser d'informer et d'aller vers les travailleurs, travailleuses pour que certaines personnes qui ne sont pas forcément au courant puissent l'être et puissent réagir et faire valoir leur droit à ne pas travailler sur un projet pour défendre des idées réactionnaires. D'autre part, on a évoqué tout à l'heure, il y a une personne qui a lu un texte qui évoquait les murmures de la cité. Et donc, en fait, on se rend bien compte qu'il y a toute une série de reconstitutions historiques qui sont financées en grande partie par ce terrain et sont soit via le fonds de dotation qui a été évoqué à plusieurs reprises, soit via les sommes contractées par les associations lors des Nuits du Bien Commun. Et donc, avec toute une série de spectacles révisionnistes tels que les murmures de la cité, mais il y a également la Dame de Pierre, il y a le dernier secret d'Athos, il y en a un autre qui s'appelle le serment du vigneron, et donc toute une série de spectacles qui sont mis en scène et qui sont créés par on va dire c'est un cercle assez fermé de personnes qui soit ont été formés au Puy du Fou, soit s'en inspirent très largement. Et donc, pour défendre, c'est ça a déjà été dit tout à l'heure, mais c'est une version très simplifiée de l'histoire française avec un message identitaire et anti-républicain. Voilà, c'est un deuxième volet de la façon dont ces Nuits du Bien Commun nous touchent directement nos secteurs. Mais il y a également, tu l'as évoqué, tout ce qui est les médias. Donc ce terrain qui a fait des tentatives de rachat, certaines n'ont pas été jusqu'au bout. Tu as parlé de Marianne, je crois, tout à l'heure, mais il y a Valeurs Actuelles également, on avait entendu parler de ça. Il fait des dons pour l'Incorrect, pour des comptes relais d'informations numériques avec toujours la même orientation éditorialiste. Voilà, et il finance également de nombreux influenceurs, influenceuses et des médias en ligne récents, et donc toujours pour continuer à propager ces idées, pour continuer à propager les mêmes idées. Et également, dans le domaine du divertissement, puisqu'il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Films à l'arrache et qui fait sur le ton de la comédie, une série des sketchs, globalement, c'est anti-woke, donc anti-féministe, anti-raciste, anti-écolo, et donc tout ça sur le ton de l'humour.
Karine, tu veux ajouter un mot ou
Je vais peut-être ajouter juste un autre angle, parce que pour moi, en tant qu'artiste et pour les artistes, ce terrain, c'est un danger énorme, parce que ça veut dire comment financer la culture autrement. Et quand on dit comment financer la culture autrement, on voit très bien là, parce que je parle aussi en tant que syndicaliste, l'impact sur nos emplois, sur la qualité de l'emploi, parce que sur la création, quelle création on va pouvoir faire. Là, on prend la Nuit des Biens Communs. Il y a un article dans la Lettre du Musicien que je vous conseille qui interview deux projets, c'est comme ça qu'ils appellent ça, à la Nuit du Bien Commun, on dépose des projets, c'est ça qu'on me dit, des structures aujourd'hui. Et le contexte économique, vous voyez, pour la culture qui n'arrive enfin qui n'est plus financé ni par les collectivités locales, ni par l'État, ni par personne. C'est une aubaine. Et donc, on a quand même très peur parce que le contexte fait qu'aujourd'hui, forcément, que c'est très, très attirant. Et si je vous parle de cet article dans la lettre du musicien, c'est que quand elle interviewe les deux porteurs de projets qui sont le concert de poche, pour ceux qui savent, c'est-à-dire des structures de musique classique et une autre structure d'ailleurs de musique classique à Bordeaux, ils disent, bon, est-ce que l'argent n'a pas d'odeur ou pas? On en arrive à des débats qui sont là pour savoir si on va accepter dans nos structures pour pouvoir continuer à les financer cet argent. Et là, on voit que c'est très compliqué parce que comme il n'y a pas d'argent, je les vois, ils commencent à dire, oui, mais bon, je vais faire ce que je veux avec cet argent, donc je vais peut-être pouvoir prendre... Donc il y a un piège, mais un piège qui est énorme pour la création, on le voit bien. Moi qui suis musicienne, par exemple, ils ont commencé cet été avec un truc qui s'appelle les plus belles fêtes de France. Je ne sais pas si vous voyez deux. C'est un label. Et comment il est arrivé à vendre son label? Il est très malin parce que l'entrisme qu'il fait est absolument incroyable. Il a été au Salon des Maires en 2024 et il a acheté un petit stand et il a mis le label truc. Et donc, voilà, toutes les collectivités territoriales pour faire leurs petites fêtes. Et il essaye de valoriser ce qui est un peu rural, Pierre, ce que vous avez cité tout à l'heure. Mais en même temps, ce qu'il y a, lui, il les valorise comme ça. Mais ce qu'il y a derrière certaines, beaucoup de ces fêtes, c'est beaucoup d'emplois de chez nous. Parce que quand il y a leur défilé trad là, le matin, l'après-midi, le soir, c'est un festival qu'il y a derrière et plein de concerts. Et à partir du moment où on finance la culture à cet endroit, et quand on parle des musiques du monde, parce que moi, je viens de ce milieu-là, moi, j'ai très, très peur qu'on m'empêche de faire tous les métissages que je veux, parce que c'est exactement leur idée et qui va vers l'idéologie. Et donc, cette musique qui va être soit classique, comme ils le financent, pour une musique bourgeoise, parce que la musique, il n'y a rien de plus classant que la musique. Elle dit, dis-moi quelle musique tu écoutes, je te dirai qui tu es, si tu viens d'un milieu populaire ou d'un autre milieu. Donc, à travers ces financements-là, il va vraiment réussir à impacter socialement l'accès à la culture, la création artistique, et puis mettre des structures qui vont dépendre totalement de ça.
تحت كل حجرة ظلت كل شجرة بشوف ذكريات ستي وجدي فكل ما تسألوني انتي مين رح احكي لكم عن قوتهم وكيف احفادهم صامدين
But I promise you the caged birds sing in the wintertime. Heavy nights, big dreams, praying that we make it to 16. And even though I travel the world, Mishimla is a Palestine.
Ah, فات وفات وفات الوقت عمري راحوا سنين وما ناسي هذه عوام را الخطر مجروح. Ah, فات وفات وفات الوقت عمري راحوا سنين وما ناسي هذه عوام
Et donc, alors, Salomé, toi, tu es en lutte, tout comme Karine. C'est quoi les stratégies qui marchent?
On l'a pas. Ça a peut-être été évoqué, mais oui, ça a été évoqué tout à l'heure. On a dit que la nuit du bien commun à Aix n'avait pas eu lieu, donc a été empêchée. Et du coup, donc on voit qu'il y a des stratégies de lutte et que oui, ça a été dit tout à l'heure que parfois on gagne. Et donc avec mobilisation, une grève, une mobilisation. Et voilà, un engagement fort de plein de militants, militantes. Il y a cette soirée qui n'a pas eu lieu, et donc la prochaine, prochaines.
On voit que toutes les actions militantes, elles ont un impact, elles ont un effet. Exactement. Ça, c'est vraiment, c'est manifeste.
Ouais,
tous
ouais.
Les témoignages qu'on a eus ce soir le racontent.
C'est ça. Et c'est bien pour ça qu'il y a cette soirée d'information, puisqu'il y a encore une bonne partie des personnes qui sont pas au courant, et notamment, je l'évoquais tout à l'heure, mais en direction du monde du travail, il y a vraiment une information importante à faire. Et pour développer les mobilisations, puisque tu le disais tout à l'heure, il y a pas mal de personnes qui apprenant que c'est ce terrain qui finance, qui renonce et qui ne veulent plus accueillir les nuits du bien commun ou d'autres soirées organisées. Donc c'est vraiment important de continuer à informer et à être sans cesse mobilisé sur les différents lieux en amont et pendant, voilà. Et j'en profite, j'ai peur d'oublier, mais je voulais parler d'une soirée qui a lieu, justement une soirée d'information. Donc c'est Médias et Extrême Droite, construire les réseaux. Et ça aura lieu donc le 29 novembre à la Bourse du Travail, et j'ai pas l'heure, mais il y a des tracts un peu partout, donc n'hésitez pas à en prendre, à les distribuer et à venir de 9h30 à 17h30. Voilà, donc il y aura un temps d'échange assez conséquent. Et du coup, c'est vrai que ça a été évoqué aussi tout à l'heure, mais là, on est vraiment, et on travaille régulièrement, on réfléchit, on cogite et on se nourrit de nos diverses expériences avec plein de syndicats, des collectifs, des assos. Et du coup, on se l'est dit à plusieurs reprises quand on terminait les réunions tardives. On s'est dit, ça fait quand même vraiment du bien de sentir qu'on est autant à être vraiment motivé par les mêmes choses. On le redit, et là, avec l'échéance évidemment des municipales et de la présidentielle à venir, si on peut surtout ne pas hésiter à multiplier ces initiatives, c'est très bienvenu, ça fait vraiment du bien. Voilà. Je voulais creuser, moi, sur l'histoire des nuits du bien commun ailleurs en Europe, et je me disais qu'il y avait aussi des choses à construire avec les camarades dans les autres pays, et que voilà, donc j'espère qu'on va étendre nos rencontres.
Merci beaucoup, Salomé.
Moi aussi, je prends une dernière fois le micro, parce que sinon je vais me faire dézinguer par les gens de mon collectif. C'est juste pour vous dire de prendre votre agenda à la page du 28 novembre, donc juste la veille de la journée visa. Le 28 novembre à 19h au 105 rue Curial, dans un truc qui s'appelle le TLM, on fait le lancement de tout notre projet, toutes nos enquêtes sur ce terrain. Si vous voulez en savoir plus, avoir plus de différentes enquêtes, n'hésitez pas à venir. En plus, c'est gratuit.
C'est bien noté. Et Léa, peut-être encore un mot.
Allez. Ouais, je suis désolée, je suis inspirée
Non, mais en fait, tout ce que vous disiez, ça m'évoquait deux, trois points où je me suis dit, je les rajoute et puis après, j'arrête de parler. Mais sur la, tu t'évoquais la question des municipales. Je crois qu'il y a vraiment un enjeu aussi dans l'enquête. On en a parlé dans la première table ronde, mais autour de ces événements de la Nuit du Bien Commun, mais pas que, mais tout ce qui met en place un peu partout ce terrain. La Nuit du Bien Commun, c'est aussi une très bonne occasion de faire de l'enquête pour voir un peu les réseaux qui se construisent localement. Parce que vraiment, c'est des boules de cristal pour voir ce qui va se passer aux municipales, ces trucs-là. C'est-à-dire qu'on a vu partout, dans toutes les villes où ça a eu lieu, et de toutes les enquêtes qui ont été menées localement pour savoir qui y allait, qui finançait, qui, quoi. Et en fait, partout, on identifie vraiment du réseautage. Alors, à la table ronde d'avant, il y a un travail hyper intéressant qui a été fait sur ceux qui soutenaient, c'était l'Académie Saint-Louis, je crois, avec la mise en lumière des entrepreneurs qui étaient domiciliés localement, mais en fait, on voit beaucoup de sièges à Paris, etc. Et en fait, partout, mais si on s'intéresse aux Nuits du Bien Commun et si on enquête sur les Nuits du Bien Commun, en effet, on voit vraiment un écosystème de petites bourgeoisies locales, d'entrepreneurs, de gens qui sont aussi souvent catholiques, d'une certaine façon d'être catholiques. Et en fait, c'est aussi un très bon angle d'attaque pour l'enquête, pour aussi un peu voir où est-ce qu'ils vont chercher du côté des municipales, parce qu'en fait, c'est un espace de réseautage pour eux aussi énorme, d'identifier des têtes un petit peu locales, parce qu'en fait, ils ont du mal. En fait, je pense qu'ils, depuis longtemps, ils identifient, voilà, à la gauche, avec le milieu associatif, etc. Ça permet de faire émerger des têtes de liste sur, enfin, voilà, quand il y a des élections locales. Et en fait, c'est un peu ce qu'ils essaient de faire, je crois, par ce travail de réseautage autour de la Nuit du Bien Commun. Et voilà, je vous invite vraiment fortement, quand vous avez l'occasion, alors peut-être que beaucoup d'entre vous êtes de Paris, mais s'il y en a qui veulent enquêter sur d'autres endroits ou même sur Paris, enfin, ça donnera quand même des éléments assez intéressants. Avant-dernier petit point, très rapide, on ne l'a pas dit, je crois, depuis tout à l'heure, mais en fait, les dons qui sont donnés à la Nuit du Bien Commun sont défiscalisés. Donc, en fait, ils n'arrêtent pas de dire « Oui, la gauche est financée par le public, etc. blabla », ce qui est déjà quand même bon. Et en plus de ça, après, ils disent « Oui, nous, on promeut un modèle inverse de la charité, où voilà, c'est des mécènes qui payent, etc. » Mais en fait, pas du tout, puisqu'ils se font défiscaliser leurs dons. Donc, au final, à chaque fois, au final, c'est quand même l'État qui paye. Donc c'est quand même assez ironique. Et puis dernière chose sur les mobilisations, vraiment jusqu'ici les mobilisations, elles ont été très créatives un peu partout. Il y a eu de tout, il y a eu des interpellations d'élus, il y a eu des grosses manifestations, il y a eu des boules puantes dans les salles, il y a eu, enfin vraiment ça a été très très créatif et je vous invite à continuer dans cet élan de belle créativité parce que vraiment je pense que ça donne aussi beaucoup de force à cette mobilisation, beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie aussi d'y participer, de continuer et puis de pas s'arrêter à cette Nuit du Bien Commun et puis d'aller attaquer partout ailleurs où on peut.
Merci Léa.
On se retrouve le 4 décembre dans la rue.
Salomé voulait ajouter un tout dernier mot.
Ouais,
et après je vous confisque le micro. Voilà. Sachez aussi qu'on va répondre aux questions que vous posez. Ce sera dans quelques minutes.
Ouais, non, parce que je voulais parler du financement en fait de nous, de la culture telle qu'on la défend nous, et donc de ce qu'on propose nous, voilà, et qu'on a envie de continuer à défendre. Et il y a toute une réflexion qui commence à s'engager sur, enfin, il y a des nouveaux états généraux de la culture pour réfléchir à comment comment on peut financer nous la culture telle qu'on a envie qu'elle existe et qu'elle continue à par exemple qu'on puisse continuer à parler de nos luttes et qu'elle soit pas effacée, enfin voilà. Et donc j'avais oublié de dire de ne pas hésiter si vous entendez que des états généraux de la culture sont organisés près de chez vous, n'hésitez pas à y participer. C'est important qu'on construise ça ensemble également.
Ouais. Merci. Et c'est effectivement un modèle. La culture, elle résiste. On l'a vu. On a évoqué le cas de Aix où on a eu une annulation et on va vous proposer un témoignage qui est assez exceptionnel des personnes qui se sont mobilisées avec toutes les difficultés qu'elles ont rencontrées et un témoignage à visage caché pour l'intervenant qui racontent parce qu'ils ne souhaitent pas être identifiés. Léa, Elsa, Karine et Salomé, vous restez avec nous sur le plateau parce qu'on aura ensuite les questions du public. Et j'appelle tous les intervenants qui ont participé aux tables rondes à rester dans les parages pour pouvoir répondre aussi si besoin. Mais tout de suite, un regard sur Aix et ce témoignage incroyable, je vous promets.
Alors, salut à vous. Petite vidéo pour revenir sur la grève du 6 octobre au Sismic à Aix. Tout d'abord dire que cette journée, elle s'est co-construite en amont et tout le long de la journée, à la fois en intersyndicale, donc avec la CGT Spectacle, avec Sud Solidaire 13 et avec le STA et le STUX de la CNT Solidarité Ouvrière. Mais aussi avec de nombreux autres syndicats, pas forcément du spectacle, et plein de collectifs politiques et des groupes antifascistes. Les soirées, les nuits du bien commun, elles sont produites par une société de production qui s'appelle Obol, et dont ce terrain a des parts. Obol a signé un contrat pour l'ensemble de la tournée des Nuits du Bien Commun à une boîte de Presta classique qui s'appelle Mimo. Et Mimo tourne sur l'ensemble de la tournée avec une dizaine de techniciens, techniciennes. Selon les contrats de location en fonction des salles, les salles mettent plus ou moins à disposition des techniciennes et des techniciens supplémentaires. À Aix, cette soirée avait lieu dans la salle du Sismic, qui est une salle, qui est une SMAC, une salle de musique actuelle, qui s'est fait avoir, qui a signé un contrat de privatisation, de location, à la Provence pour le bien commun, croyant que c'était un gala de charité classique, et avait pas trop regardé les trucs. Quand ils ont voulu rétro-pédaler, ils pouvaient pas revenir sur le contrat. Donc ils ont décidé de mettre en congé l'ensemble de leurs techniciens et techniciennes pour qu'ils aient pas de cas de conscience à jouer sur le fait de travailler sur ces soirées-là. Mimo a dû se retrouver à devoir salarier une petite dizaine de techniciens en plus, donc surtout 8 rods. En amont, donc, on a dû faire quelques petites tactique et subterfuge pour arriver à se faire embaucher et à ce que les huit rods, on les puisse préparer en amont de la journée pour se mettre en grève dès le matin. Arriver à 8h, la première chose qu'on a fait, c'est demander notre contrat de travail. Très souvent dans le spectacle, c'est pas toujours qu'on a le contrat de travail à la première heure sur laquelle on travaille. Ça nous a fait traîner une demi-heure au café. Le temps que le contrat de travail soit édité, qu'il nous soit dans les mains, et puis une fois qu'on l'a signé, on l'a donné au directeur technique, qui nous disait « bon, c'est bon, vous avez signé votre contrat, vous venez décharger le camion », et là, on lui a annoncé qu'on était en grève. On a dû se mettre en grève conformément au préavis national qui a été déposé par certains syndicats dans le cadre du mouvement actuel contre l'austérité. C'était très important pour nous que notre grève, elle soit à fond dans les clous, parce que le but, c'était qu'elle puisse pas être considérée comme une grève illégale, pour pas qu'on puisse être remplacé. Ensuite, on a appelé au soutien, et il y a eu un piquet de grève qui s'installait devant la grille du Sismic, et nous, on a profité de cette matinée pour essayer de motiver les collègues à nous rejoindre dans cette journée de grève. Ce qui n'a pas vraiment marché, puisque la plupart des techniciens et techniciens étaient employés par Mimo et faisaient l'ensemble de la tournée du bien commun. Et nous ont dit, bah non, nous on sait pourquoi on bosse, ok, nous qu'on mette des projets pour ça ou pour autre chose, c'est pareil. Le directeur technique, suite à notre grève, a réajusté le plateau, a décidé d'installer un peu moins de projecteurs, à réduire peut-être l'écran, enfin... Les équipes de leur côté se sont mis à décharger le camion à notre place, on les a regardés. Et vers 11h30, une grosse partie du plateau était déjà installée. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de faire un piquet de grève sur le plateau. On était là sur le plateau sans que personne vienne nous demander quoi que ce soit. Ça a continué comme ça toute l'après-midi, de 14 à 17. On était au milieu, il y avait des réglages. Ils venaient faire des tests micro, vérifier les projecteurs, vérifier les écrans. Et nous, on était en plein milieu de la scène.
Tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir si tu
vas. On
À 17h, tout s'est accéléré. Le directeur de la salle du Sismic nous a d'abord demandé de quitter le plateau en nous disant que si on ne le faisait pas, ils seraient obligés de demander le recours à la force publique pour des questions de sécurité. Nous, on lui a un peu répondu qu'on ne bougerait pas du plateau, que notre piquet de grève était légal et que la sécurité du bâtiment n'était pas remise en cause par notre action de grève, quoi. Entre-temps, on a vu les camions de CRS se positionner tout autour du bâtiment. Puis il est revenu une demi-heure après nous dire qu'il avait eu ses avocats au téléphone et qu'en effet, on n'était pas en train de mettre en cause la sécurité du bâtiment et que donc, il nous a dit s'il y a une intervention de la police, ce sera pas moi qui l'aurai demandé, ce sera la société de production au bol qui l'aura demandé pour entrave au bon déroulement de la soirée. Après, il y a eu plein de médiations, on a eu le droit à des représentants d'associations, lauréates ou candidates des Nuits du Bien Commun qui sont venus nous dire que si on empêchait la soirée, il y aurait moins d'argent pour des enfants autistes. On a eu ensuite l'entrée dans le bâtiment des forces de l'ordre avec la direction de la société Obol qui nous a une nouvelle fois demandé de partir. On a une nouvelle fois refusé en disant que on entravait le travail de personne, qu'on resterait sur le plateau et que si d'autres travailleurs arrivaient dans la soirée, on cohabiterait sur le plateau mais qu'on bougerait pas, quoi. Et tout ça a continué avec surtout aussi, il faut pas l'oublier, à l'extérieur, un soutien qui devenait de plus en plus gros et qui en fait était organisé depuis des semaines en amont grâce à plusieurs assemblées générales. C'est-à-dire qu'il y avait des gens sur des ronds-points pour perturber les arrivées des futurs participants à la soirée et le rassemblement devant la salle commençait à réunir à peu près 200-250 personnes, quoi. La pression montait et là, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, l'ensemble des techniciens qui avaient disparu depuis au moins deux bonnes heures ont réapparu pour allumer les services, descendre les grilles et dire on démonte. Certains sont venus nous dire bravo, la persévérance ça paye. Et à ce moment-là, on est ressorti rejoindre le rassemblement devant les grilles. On est beaucoup à penser que ce qui a fonctionné, c'était le bruit que ça a fait et le poids qu'il y avait des rassemblements dehors avec plusieurs organisations, une grève à l'intérieur et d'autres actions concertées par d'autres groupes, d'autres collectifs. C'est sûr que c'est pas refaisable exactement toujours partout parce que c'est pas toujours possible que les travailleuses et les travailleurs à l'intérieur puissent se positionner, puissent faire une grève, soient en contact. Nous, ce qu'on a fait aussi là, c'était pour montrer que c'est possible. Que plein de fois on se dit oui mais ça va ne servir à rien, mais en fait là à 8 rods, ça a quand même permis de ne pas faire la soirée et de jouer le rapport de force. Et c'est pour redire à tous les camarades techniciens, tous les gens qui bossent dans le spectacle, nous on considère avec beaucoup qu'il y a une ligne rouge de l'extrême droite avec laquelle on n'a pas envie de travailler, avec laquelle on n'a pas envie qu'elle s'immisce dans nos lieux de travail. Culturel et du spectacle. On se battra pour ça. Et juste pour redire à tous les collègues que vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas tout seul avec ces questions-là. Il y a des organisations syndicales derrière. N'hésitez pas à vous en rapprocher. N'hésitez pas à vous rapprocher de collectifs antifascistes pour partager les informations que vous avez sur vos lieux de travail et qu'on puisse s'organiser ensemble pour lutter, que ce soit pour les nuits du bien commun, pour la Dame de Pierre et pour l'ensemble des projets de l'extrême droite, que ce soit ceux de ce terrain ou d'autres personnes à venir. Paris, vous, en effet, la date, elle est importante puisque symboliquement, c'est la jonction de ce terrain et Bolloré. Je pense que c'est important de faire un gros coup et que ce soit depuis l'intérieur, depuis l'extérieur, les jours d'avant, le jour même. Faisons en sorte que cette nuit du bien commun n'ait pas lieu. Force à vous, courage, à très vite.
Énorme applaudissement s'il vous plaît pour les camarades d'Aix et du Stux qui nous ont monté cette vidéo pour témoigner de leur grève pour qu'on la voie ce soir. C'est hyper inspirant. Et du coup, c'est pour répondre à ce que tu disais, Salomé, hein, puisque ce terrain attaque la culture contre-attaque.
If I must die, you must live. To tell my story, to sell my things, to buy a piece of cloth and some strings, make a wife, make a wife with a long tail, so that a child somewhere in Gaza is looking heaven in the eye, awaiting his dad who left in a blaze and bid no one farewell. Not even to his flesh, not even to himself, sees the kite you made flying.
Un petit teaser qu'on aimerait bien vous montrer en vue du 4 décembre et de cette contre-attaque contre Sterrin et Bolloré. On aura ensuite quelques petites annonces à faire et puis il y a des camarades qui sont passés là récupérer vos petites questions. Mais ça nous laisse le temps de vous montrer le teaser. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît.
Quoi de plus enrageant qu'un milliardaire d'extrême droite ?
Deux milliardaires d'extrême droite.
Le 4 décembre, la nuit du bien commun. Le gala de charité créé par Sterrin débarque aux Folies Bergères, propriété de Bolloré.
Si l'événement organise des levées de fonds pour financer quelques assauts légitimes,
c'est en fait un écran de fumée pour financer des associations réactionnaires et les réseaux de l'extrême droite partout en France.
Le 4 décembre, on s'invite tous à la dernière édition nationale à Paris.
Voilà, il n'y a pas de fin à ce teaser, comme vous aurez pu remarquer. On a quelques annonces hyper importantes à vous faire en vue du 4 décembre. D'ailleurs, une personne sur les papiers, elle a dit « Quelles actions sont prévues le 4 décembre ?» Voilà, du coup, on a des petits éléments de réponse à vous donner.
Oui, concernant la mobilisation, déjà pour rebondir sur la vidéo qu'on vient de voir du camarade qui parlait de la grève à Aix, sachez que du coup toutes les infos sont bonnes à prendre si vous connaissez des gens qui sont techniciennes, techniciens, qui travaillent dans des salles de spectacle. Les nuits de terrain ou les nuits de bien du commun ou le spectacle La Dame de Pierre, ça se joue dans des lieux culturels. Du coup, la moindre info peut nous permettre de construire ce genre d'action, donc n'hésitez pas. Même si c'est une toute petite info, à prendre directement contact avec les organisations syndicales Sud Culture, le STUC ou la CGT Spectacle. Concernant le 4 décembre, eh bien entendu, il y aura un rassemblement déclaré auquel on vous invite à être nombreuses et nombreux pour pouvoir massifier au maximum ce rassemblement. On a certains éléments de communication, notamment la page Instagram qu'on invite à suivre, qui est du coup la page Insta, c'est scas.paris. Je répète, scas.paris. Et puis il y a aussi une autre méthode, parce que ça mobilise, vous l'avez vu, un public de plus en plus important dans ces soirées. Et ben, c'est d'aller prendre aussi nous nos billets. Donc les réservations sont ouvertes. N'hésitez pas à prendre le maximum de tickets, même si bien sûr vous ne vous y rendrez pas, quoique il y a aussi des choses peut-être à imaginer. Mais voilà, essayons de vider leur billetterie. Concernant sinon, je sais qu'il y a un appel à une AG ouverte de Antifa Paname qui aura lieu le 13 novembre prochain, donc la semaine prochaine. Et puis une autre info importante aussi, mardi prochain, donc le 11, à la Parole Errante, il y aura une réunion AG autour du monde du livre contre Vincent Bolloré. Merci à tous.
Merci à tout le monde d'avoir été si patient pendant cette table ronde fleuve. Allez suivre scas.paris et des infos arriveront très vite. Et nous allons tous beuler.
Merci beaucoup. Un grand merci à tous les intervenants. C'est la fin de cette table ronde. Dans 30 minutes, on va danser, évidemment. Merci à vous pour votre patience, votre écoute et très bonne soirée.